Nouvelle escale ce soir sur Radion, bienvenue dans Wagon Livre, votre émission littéraire chaque mercredi à 21h. Une émission ce soir à suivre à pas de loup, puisque nous allons marcher dans les traces de cet animal à travers l'histoire de la Bourgogne, en compagnie de notre invité, historien et conférencier, Gilles Plâtré, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous d'être devant le micro, les micros de Radion pour l'émission littéraire. Je me permets rapidement de vous présenter à nos auditrices et auditeurs. Vous êtes historien libéral et conférencier. Vous menez depuis plus de 15 ans des recherches sur l'histoire de la Bourgogne. Vous êtes président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Châlons. Vous ne me contredisez pas jusque-là, tout va
très bien.
Vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques et titulaire d'un diplôme d'études approfondies d'histoire contemporaine que vous avez décroché à la prestigieuse Sorbonne. Vous avez 37 ans. Vous avez publié plusieurs ouvrages d'histoire locale, notamment sur la Seconde Guerre mondiale. Le vignoble en colère, 1944, la libération de la côte chalonnaise. Ça, c'est un livre paru en 2004, d'après mes sources.
C'était le premier, oui.
Un peu plus tard, le Chalonnais entre en guerre, 1932, juillet 1940. Et puis, vous vous êtes aussi beaucoup intéressé en bourguignon à l'histoire du vin, à travers un livre intitulé « La grande histoire des vins de Givry, de l'Antiquité à nos jours ». Et puis, tout récemment, on voit beaucoup vos livres dans les devantures des librairies et maisons de la presse dans Lyon. Tout récemment, le plus récent, c'est « De Gaulle et la Bourgogne », qui a été commenté et mis en valeur par un grand nombre d'organes de presse. Et puis pour nous, ce soir, donc, on s'arrête sur un livre qui date de 2007,
«
Les loups dans l'histoire de la Bourgogne ». Alors, Gilles Plâtré, j'ai lu votre livre avec un grand bonheur, vous le savez, je le répète et je le dis, je suis très sincère, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai lu votre livre, extrêmement documenté, richement illustré, un très bel ouvrage. Et effectivement, vous expliquez qu'il y a une complicité très ancienne, en tout cas, entre la complicité, une sorte d'amour-répulsion, attirance, séduction, crainte, entre les hommes et les loups, finalement, de l'Antiquité, depuis l'époque de la fameuse louve nourricière des jumeaux créateurs de Rome. Voilà un animal au lourd passé dans la vie des êtres humains.
Je crois qu'effectivement, c'est un animal qui nous révèle une part de nous-mêmes. C'est un animal qui a partie liée avec l'histoire de l'homme, singulièrement en France, où, à la différence d'autres pays, on a tellement été, j'allais dire, fixé sur cet animal, hein, dans cet aspect, vous l'avez fort bien dit, d'attraction et de répulsion, c'est une vraie fascination, au sens premier du terme, qu'on a voulu, à un moment donné, et on y est arrivé, le chasser complètement de l'espace naturel, ce qui n'a pas été le cas dans d'autres pays. Ce qui est certain, c'est que le loup, quelque part, nous renvoie à nous-mêmes. Et si aujourd'hui, dans les librairies, dans les rayons jeunesse des librairies, il est toujours aussi présent, alors qu'il a disparu depuis longtemps, en tout cas de la plupart des régions de France, c'est bien qu'il appartient à l'inconscient collectif, qu'il y est rentré, et ça n'est pas né du hasard. C'est un animal qui a vraiment vécu aux côtés de l'homme. J'ai l'habitude de dire souvent, d'ailleurs, dans mes conférences, que ce ne sont pas les loups qui vivaient au milieu des hommes, ce sont les hommes qui vivaient au milieu des loups, dans une omniprésence, dans les campagnes, mais aussi dans les villes, jusqu'encore à la fin du 19e siècle et même au début du 20e siècle. Donc on a une telle proximité qui a duré pendant des millénaires qu'il en est resté quelque chose qui est une relation singulière. Fascination parce que le loup est un modèle d'organisation sociale qui a toujours intéressé l'homme. La meute est un système complexe, organisé et redoutablement efficace pour sa protection, sa survie. Et puis, répulsion aussi, parce que non seulement le loup peut, comme on le dit, parfois sortir du bois et faire quelques dégâts, on en parlera sans doute, mais aussi parce qu'à un moment donné, l'homme a compris que le dernier ennemi qu'il devait soumettre pour se croire complètement maître de la nature, c'était le loup. Et il y a une manière de conflit entre la nature et la culture derrière cette grande histoire de cette relation, et c'est pourquoi il m'avait semblé intéressant de la regarder de plus près dans une région où l'animal a été parmi les plus présents sur le territoire français.
Avec les Vosges, vous dites aussi les Vosges ont été un grand réservoir de loups.
On a deux grands secteurs, deux grands pour l'Europe de l'Ouest, deux grands réservoirs entre guillemets naturels de loups qui sont d'un côté la forêt noire en Allemagne et le massif central en France. Et dans cette zone intermédiaire, dans cette grande zone intermédiaire, on a une zone de densité de peuplement qu'on apprécie assez bien parce qu'on a la matière pour le faire en matière de documents d'archives notamment. Et c'est incontestable que les loups, pour les quatre départements bourguignons, étaient excessivement présents. Alors, après, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Il faut encore essayer de les apprécier et de savoir numériquement comment les choses se passaient. La source principale pour ça, c'est une source un peu macabre, c'est les versements des primes de destruction, puisque depuis la moitié du XVIIe siècle, on a encouragé la destruction des loups et on a des états numériques année par année, qui nous disent précisément combien de loups on a pu éliminer à un moment donné. Et ça veut dire, on le sait à peu près, qu'on éliminait à environ 50% des loups vivant sur le territoire, ce qui nous donne, rapporté à des statistiques, pour prendre une moyenne à la fin de l'Ancien Régime, à la veille de la Révolution française, de certaines années où en Bourgogne on pouvait dénombrer de 3 à 4 000 loups, par rapport aux 200 loups qui vivent en liberté aujourd'hui sur le territoire français. Sur le territoire français, 3 à 4 000 loups pour l'ensemble des 4 départements bourguignons. Donc vous voyez bien que c'est tout sauf anecdotique, c'est un animal qui est extrêmement présent, qu'on voyait peu, parce que le loup se protège, il se cache, c'est un animal qui est trop prudent pour être volontiers enclin à sortir du bois ou des endroits où il vit naturellement, mais c'est un animal qu'on entend à défaut de le voir. Et il faut imaginer nos ancêtres qui le soir chez eux, en fermant leurs portes, entendait les meutes qui chantaient alentour. Donc il était omniprésent, omniprésent. Et on comprend à quel point il a pu hanter l'imaginaire collectif après ça.
La raison des plus forts est toujours la meilleure. La très célèbre fable de Jean de La Fontaine, Le loup et l'agneau, mise en musique par le groupe De La F, extrait d'un album intitulé La raison du plus fort, sorti en 1995. Avant de retrouver notre invité, je rappelle la tenue à Autun les samedis 16 et dimanche 17 avril prochains de la 14e fête du livre qui se tiendra au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville d'Autun, donc de 10h à 19h. Le thème de l'édition 2011 est « Figure d'humanité ». Il s'agit, je le rappelle, d'une grande manifestation organisée par les bénévoles de l'association Lire en pays autunois qui attire sur les deux jours plus de 10 000 visiteurs. Parmi les auteurs prestigieux invités, Denis Tillinac, Vincent Roca, Arnaud Montebourg, on notera aussi le journaliste Thierry Roland, un très grand nombre d'auteurs qui seront donc à Autun les 16 et 17 avril pour dédicacer leurs livres, mais aussi des auteurs plus proches de nous, je pense à Didier Cornaille, Jean-Charles Cougny, Lucette Desvignes, que nous avons pu entendre dans Wagon Livre, ainsi que Barbara Moreau, Chris Flamand, Sandra Amani, Lucienne Delisle, Jean-Pierre Mivaden, enfin un très grand nombre d'auteurs, je ne peux pas tous les mentionner, je vous recommande d'aller en découvrir la liste à partir d'un moteur de recherche, vous tapez « Lire en pays autunois », vous aurez toutes les informations indispensables et notamment des informations sur les tables rondes qui seront animées par la journaliste Patricia Martin. La suite de Wagon Livre, votre émission littéraire, que d'aucuns écoutent à Autun via Internet sur le www.radion.fr. Nous revenons ce soir sur un animal omniprésent dans la vie de nos ancêtres, le loup. Et pour l'évoquer devant nos micros, notre invité est Gilles Plattret, historien, auteur d'un remarquable ouvrage intitulé « Les loups dans l'histoire de Bourgogne ».
Alors, omniprésent déjà jusque dans la préhistoire, puisque dans les premières pages de votre livre, vous dites que sur le site archéologique de Solutré, on a retrouvé des ossements de loups. Alors, est-ce à dire que l'homme préhistorique mangeait des loups ?
Alors ça, c'est une vraie question.
Ou alors
Que les archéologues n'ont pas encore tranché. Parce que, on a le premier loup, l'ancêtre des loups bourguignons. Il remonte environ 600 000 ans à 1 million d'années. On l'a trouvé dans la large vallée de la Saône, donc dans Bourgogne du Sud, dans le secteur de Cluny. Et ensuite, on sait que dans le contexte des hordes de chasseurs qui suivaient les troupeaux de rennes, de chevaux, dans des temps d'ailleurs où la température était bien moindre que ce qu'elle est aujourd'hui, et qui notamment s'était fait autour de Solutré, un site de chasse privilégié, on a retrouvé des ossements de loups. Certains d'ailleurs avec des traces de silex. Alors de deux choses d'une, ou bien on consommait le loup, ce qui expliquerait que les os qu'on retrouve aient été marqués par l'empreinte du silex, ou bien simplement on enlevait sa peau pour s'en servir, tout simplement pour s'en vêtir. Ce qui est certain, c'est que les loups, et ça c'est l'hypothèse assez logique que les archéologues ont pu faire à partir des trouvailles archéologiques sur Solutré, les meutes de loups suivaient vraisemblablement les hordes de chasseurs pour se nourrir des restes des chantiers de chasse. C'est une époque où on peut le penser, la coexistence était entre guillemets pacifique, si vous me permettez cet anachronisme, parce que tout le monde vivait sur un même territoire de chasse. Les choses se sont singulièrement compliquées quand l'homme s'est sédentarisé et qu'il est devenu agriculteur et surtout éleveur. Où là, effectivement, le conflit pour la gestion d'un patrimoine naturel partagé s'est instauré entre finalement les deux grands prédateurs, c'est-à-dire le loup d'un côté et l'homme de l'autre. Et là, effectivement, les choses ont commencé à se corser.
Alors, vous expliquez bien, évidemment, chronologiquement, puisqu'on est dans l'histoire, vous expliquez que le lion a été un temps considéré comme le roi des animaux, bon, ensuite détrôné par le lion, qu'au Moyen-Âge, il fait partie du bestiaire de l'art roman et l'art gothique. Il y a des photographies de gargouilles représentant des loups, donc on voit bien que l'animal est omniprésent dans les préoccupations, les craintes et les fascinations, sans doute, qu'il exerce auprès de tout être humain. Et puis, il y a la période des grands défrichements, où là, vous dites, les défrichements ont bien évidemment eu des incidences incontestables sur le loup et sans doute dans son rapport avec l'humain.
Oui, alors ça c'est une question fondamentale parce que, et plus largement je dirais que le loup nous permet de révéler la société d'Ancien Régime. Vous savez, pendant quelques décennies, on a oublié cet animal. Il a officiellement disparu de France au milieu du XXe siècle. Le dernier loup bourguignon, c'est 1956 dans l'Auxois.
Tu es dans le
Morvan ? Oui, ouais, c'est ça, dans l'Auxois. Mais en règle, et donc c'est hier. Et pendant quelques décennies, finalement, le loup a disparu, on en parlait peu. Aujourd'hui, on a un renouveau de l'historiographie autour du loup, autour notamment du professeur Jean-Marc Morisseau de l'Université de Caen, dont je suis on peut considérer que je suis un de ses disciples, parce que c'est un peu dans cette lignée-là. Il a écrit un livre, la même année d'ailleurs que le mien, Histoire du méchant loup en France, sur les cas d'attaque du loup sur l'homme en France. Et il manquait d'une synthèse bourguignonne, donc c'est ce qui est un peu ce qui a provoqué l'édition de livres dont vous faites le plaisir de parler aujourd'hui. Mais simplement, ce que Jean-Marc Morisseau et ce que j'ai essayé de montrer moi aussi, c'est que le loup révèle l'organisation sociale. Il révèle l'organisation sociale, il révèle l'organisation humaine, il nous dit effectivement, parce qu'il réagit différemment quand il y a des forêts, quand il n'y en a pas, il faut s'imaginer la Bourgogne d'Ancien Régime peuplée de forêts. Les zones d'habitat sont des clairières. C'est ça l'idée. Les zones d'habitat ont toujours été conquises sur l'espace forestier. Et vous avez raison de dire que dans des périodes où l'homme reconquiert son territoire, c'est-à-dire quand il y a une certaine stabilité politique, quand il n'y a pas de guerre,
voilà,
quand il n'y a pas de révolution.
Sont très propice au développement des loups.
Ben complètement, bien sûr.
Loups, oui.
Mais quand l'homme remaîtrise, entre guillemets, son territoire, bien effectivement, la forêt se réduit et se pose de nouveau, en considérant la rétractation de l'habitat naturel du loup, la question de ses relations avec les hommes alentour. On a des cas en Bourgogne. Alors c'est vrai, dans Lyon, dans la forêt d'Ott, parce que c'est sans doute les premières références médiévales qu'on retrouve précises, notamment au début du XIIIe siècle, les traces de loups qu'on capturait en forêt d'Ott. Ça c'est bon, parce que c'est une grande forêt, c'est une forêt qui, de surcroît, était proche du centre du pouvoir politique, et donc qui pouvait recevoir de grands personnages aussi pour des chasses assez fastueuses. Donc on sait que le loup est dans la forêt, mais que quand la forêt se recule, le loup voit son territoire se réduire, ce qui peut à un moment donné l'amener à sortir aussi de ce cadre naturel et à essayer de chasser un peu au-delà. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de la nature et de l'occupation humaine que le loup nous permet de révéler aujourd'hui par son étude.
Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu ? Que fais-tu ?
Je mets ma culotte jaune.
Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup
Je mets ma chemise grise.
Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu ? Que fais-tu ?
Je mets ma veste rouge.
Que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas.
Loup, y es-tu ? Que fais-tu ?
Oh oh, je mets mes chaussettes roses.
Prenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Où y es-tu ? Que fais-tu ?
Je mets mes chaussures bleues.
Prenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas.
Loup, y es-tu ? Que fais-tu ?
Je mets mes lunettes noires.
promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Où y es-tu? Que fais-tu?
J'arrive!
Toujours dans l'émission Wagon Livre sur Radion, en compagnie ce soir de notre invité Gilles Platret pour son livre Les loups dans l'histoire de Bourgogne. Alors Gilles Platret, le moment est venu de parler justement de l'adaptation de l'homme par rapport à ce nuisible, ces nuisibles que sont les loups organisés en meute. Et je vais vous inviter à nous parler de cette caste de privilégiés, si je vous ai bien lu, que sont les louvetiers. Alors, les loups paris, c'est les loups paris, hein, de lupus en latin, le loup, leurs statues ont été créées par l'empereur Charlemagne, couronné en Noël 800, et puis François Ier crée l'office de grand louvetier de France. Donc ça veut dire qu'au niveau du pouvoir, on a organisé la maîtrise, en tout cas, des meutes et la destruction du loup en créant une institution de privilégiés.
Oui, alors, vous avez raison d'insister là-dessus, parce que c'est fondamental. La présence nombreuse des loups et les problèmes que ça pouvait poser, tant sur les troupeaux qu'éventuellement sur les populations, on en dira sans doute un mot, en termes d'attaque, et pas simplement d'ailleurs de loups qui veulent manger, mais aussi de loups qui, notamment malades de la rage, peuvent être particulièrement meurtriers, a amené le pouvoir à s'intéresser très près à cette question. En 813, on a un capitulaire qui institue, comme vous le disiez, les loups paris, louviers ou louvetiers, qui existent toujours. Parce qu'aujourd'hui, dans le département de l'Yonne, comme dans l'ensemble des départements français, on a des lieutenants de louveterie, qui sont des professionnels de la nature, si je puis dire, même s'ils font ça la plupart du temps à titre bénévole, et qui vont être amenés à réguler les populations nuisibles. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de loups à réguler, mais il y a d'autres espèces qui peuvent, par surabondance, devenir nuisibles pour les cultures. Et ce qui est assez intéressant de noter, c'est que cette institution qui a été créée en 813, qui a été confirmée sans cesse par le pouvoir royal, qui certes a connu des éclipses parce que le pouvoir aussi a décliné en France, hein, l'autorité royale a déchu, elle est remontée ensuite un peu plus tard, donc elle est constamment la réaffirmation de l'autorité politique, qu'elle soit royale ou ducale pour la Bourgogne, amène à réinstituer le lieutenant de louveterie. Et bien aujourd'hui, cette institution, c'est la plus ancienne qui existe sur le territoire, instituée en 813. C'est-à-dire que dans 2 ans, on fêtera les 12 siècles d'existence des lieutenants de louveterie. Et c'est intéressant parce que ça montre bien quoi? Que le pouvoir a toujours eu le souci de faire en sorte de se rendre maître de son environnement. On veut absolument maîtriser tout ce qui nous entoure, notamment dans la nature, évidemment. Et ce souci constant, il se manifeste, vous avez raison, avec Charlemagne, avec François Ier, avec Napoléon aussi, qui à un moment donné, parce que la Révolution, face à ces personnages qui étaient à la fois estimés parce qu'ils rendaient un service, mais redoutés,
critiqués
beaucoup.
Pour leur incompétence ou aussi parce qu'il y avait des trafics.
Alors il y avait des trafics, vous avez raison de le dire, et puis il y avait aussi, il faut bien le dire, un prélèvement d'impôts indirects, puisque lorsqu'un louvetier tuait un loup dans un secteur, il pouvait imposer à 2 lieues à la ronde, ce qui nous fait à peu près 8 kilomètres, l'ensemble de la population dont il était censé, qu'il était censé avoir débarrassé de ce loup. Donc ça veut dire à un moment donné que la Révolution va mettre un peu ses lieutenants de louveterie de côté, mais que l'Empire va très vite les retrouver parce que c'est une nécessité d'ordre public. La Troisième République fera la même chose. Parce que bien souvent, ce sont des nobles avec de grands équipages qu'on craint un peu, que les républicains qui arrivent au pouvoir craignent parce que ce n'est pas du tout leurs options politiques, mais on va les réinstituer à un moment donné parce qu'on ne peut pas s'en passer, tout simplement. Donc on voit bien là aussi qu'à travers l'exemple des lieutenants de louveterie, on a ce rapport constant de l'homme et du pouvoir avec la nature et sa maîtrise et son environnement.
Sans que je veux lui plaire, sous le fil de l'emballage, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser. Et quand d'un coup d'elle se déplume, mon œil lui fait de l'œil. Même ululée sous la lune ne me fait pas peur, pourvu qu'elle veuille. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter.
La victime est si belle et le crime est si gai.
Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Par le biais d'un billet fou, lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné. Le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager.
Et les cifres et les skis sous mes bordées d'amour. Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours.
Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire.
Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai.
Souvenez-vous, c'était en 1989, Philippe Lafontaine et Cœur de loup. La suite de Wagon Livre, votre émission littéraire chaque mercredi soir à 21h sur votre radio locale, sur Radion. Nous accueillons devant nos micros Gilles Platret, historien, auteur d'un livre passionnant, Les loups dans l'histoire de Bourgogne.
Et c'est-à-dire symboliquement que le loup, dans l'esprit des populations rurales, est attaché au pouvoir royal, au pouvoir d'une certaine noblesse, dans la mesure où derrière ces chasses de loups, parce que vous l'expliquez bien, c'est qu'à partir, après la nuit du 4 août 1789, qui voit donc l'abolition des privilèges en France, c'est après cette date fondamentale que les paysans vont avoir un peu le droit, le tiers-état, disons, de chasser le loup, alors qu'avant, la chasse du loup semble être l'apanage d'une élite nobiliaire.
Alors, c'est vrai en partie. Pourquoi ? C'est vrai parce que les lieutenants de louveterie sont la plupart du temps de grands seigneurs, avec particules, et qu'ils revendiquent. Donc, c'est l'aspect noble du loup, si vous voulez. Et c'est un animal qui est très difficile à chasser.
Gilles de la Buffe.
Par exemple, voilà, c'est ça, un des premiers louvetiers qu'on recense en Bourgogne au XVe siècle, au XIVe même. Et on a effectivement ces grands seigneurs. Mais d'un autre côté, on a aussi le loup roturier, si je puis dire, le loup manant. À partir du moment où les États de Bourgogne, à la suite d'une série d'attaques sur des enfants en forêt de Citeaux, vraiment dans les années 1640, vont décider d'instituer des primes de destruction. Ils vont demander à chacun, non pas simplement au lieutenant de louveterie, mais à tout à chacun de détruire les loups. Et ils vont les inciter par le versement d'une prime de destruction. Et là, vous allez avoir une économie du loup, si je puis dire, qui va également être une économie de roture, qui n'est plus une économie de noblesse. Et l'on voit des paysans qui vont tendre des pièges. Alors, soyons clairs, avant la nuit du 4 août, personne, à part la noblesse et le clergé qui déroge, n'est censé posséder d'armes. La nuit du 4 août, l'abolition des privilèges permet à tout un chacun de posséder un fusil. La vérité, On a beaucoup d'entorses à ce règlement dès avant la Révolution française. Mais on a d'autres méthodes. Si on n'a pas le fusil, on a les pièges qu'on appelle les louvières ou louvetières, ces fosses qu'on creuse dans le sol, dans lesquelles on va jeter une charogne, parce que le loup est un charognard, il faut le redire, c'est un animal qui se nourrit de bêtes mortes, et on va recouvrir le tout de branchages et de feuillages. Le loup attiré va s'approcher trop près, et sous son poids, ce faible couvercle va céder, et il sera pris au piège. Donc, les paysans chassent le loup, certains d'ailleurs le font d'une manière assez continue. Comme on a les états nominatifs, on sait précisément où, qui, comment on tuait le loup. Et on voit bien que on a vraiment, à côté des grands seigneurs louvetiers, des roturiers qui, eux aussi, s'intéressent à cet animal de près. Et ça peut d'ailleurs être constitué pour eux des recettes assez intéressantes dans une société, il faut le rappeler, qui était une société très très dure pour la vie quotidienne. Le loup peut permettre d'améliorer l'ordinaire, si je puis dire.
Alors arrêtons-nous maintenant un peu sur ce loup agresseur. Vous dites que le loup agresseur est plutôt un mâle, qu'il attaque de dos, qu'il vise le cou, qu'il attaque les enfants. D'ailleurs, vous montrez bien que l'instauration de l'école obligatoire va protéger les enfants. Il y aura nettement moins, enfin, il y aura plus d'enfants gardiens de troupeaux attaqués par les loups, de par leur obligation d'assister au cours. Alors, ce qui est très intéressant, vous parlez du loup enragé, qu'on appelle aussi le loup hydrophobe, ce que j'ignorais complètement. Et alors, concernant la bête de l'Auxerrois, il y a quelques pages passionnantes pour nous, iconais. La bête de l'Auxerrois, donc s'il faut situer ça donc sous Louis XV, 1731-1732, très précisément. Alors, quelle est la particularité de cette bête de l'Auxerrois? C'est surtout les dégâts qu'elle cause à différents endroits.
Sa dangerosité, effectivement. Alors, on a, quand on regarde l'histoire française et l'histoire du loup en France, on a l'apparition de phénomènes qu'on appelle les bêtes. La plus fameuse, on la connaît, c'est la bête du Gévaudan.
Ah, la bête du Gévaudan, 60 kilos.
Oui. Alors, sauf que, là où je dis méfiant, c'est que on donnait à une série d'attaques, sur la plupart du temps des enfants ou des femmes, parfois dans l'Auxerrois, en l'occurrence, il y a une victime féminine, on donnait le nom de bête, parce que, là aussi, il y a cette idée sous-jacente que le loup qui attaque l'homme est quelque part possédé par le démon, et que donc cette bête est peut-être un animal, mais c'est aussi le diable. Donc c'est un terme générique, en réalité, qu'on emploie un peu partout en France lorsqu'une série d'attaques survient. La bête du Gévaudan, c'est 80 victimes en 4 ans. Bon, l'Auxerrois, en un an, c'est une trentaine de victimes. Donc c'est, à la rigueur, plus important que la bête du Gévaudan. Mais c'est un autre contexte. On a d'autres préoccupations en France et ça ne devient pas une affaire d'État, voire une affaire européenne, comme c'était le cas du Gévaudan dont on parle encore. Qu'est-ce que c'est la bête de l'Auxerrois? C'est tout simplement dans une série de paroisses du comté d'Auxerre, au sud de la ville d'Auxerre aujourd'hui, une série d'attaques. La plupart du temps, vous avez raison de le rappeler, sur des enfants, parce qu'il faut bien considérer que dans ces années-là, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, et même jusqu'au 19e siècle, la plupart du temps, les enfants sont constamment dehors, parce qu'on est dans une économie de subsistance, et qu'à 3 ans, on ne peut pas se contenter d'avoir des enfants et des bouches inutiles à nourrir à la maison, et que donc on va les envoyer travailler. Qu'est-ce qu'on va leur faire faire? On va leur envoyer chercher du menu bois, par exemple. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le feu claire du 31 décembre au 1er janvier, et inversement, c'est plutôt dans l'autre sens, si on veut faire toute l'année. Et donc, pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de cuire l'alimentation. Donc, les enfants vont chercher du menu bois, ils vont garder les troupeaux, ils vont travailler dans les vignes, là où il y a des secteurs de vignes. Donc, ils sont constamment dehors. Et constamment dehors, ils sont aussi la cible privilégiée de loups. Alors, pas dans n'importe quel contexte. Dans un contexte, la plupart du temps, en tout cas c'est les hypothèses qu'on peut formuler, où le loup connaît une raréfaction de sa nourriture habituelle. Je vous ai dit que c'était d'abord un charognard, à la suite de quoi, quand il a plus de charogne à manger, il s'attaque aux bêtes vives. Et simplement, dans des cas exceptionnels, il faut bien le dire, dans des cas exceptionnels, il peut s'attaquer aux êtres humains. Il y a une hypothèse assez intéressante qui a été avancée, parce qu'aujourd'hui, il est très très rare dans les zones du monde où l'homme vit au milieu du loup, que des cas d'attaque surviennent. Ça arrive, mais c'est très très rare. Alors certains disent, mais pourquoi est-ce que ça serait passé en France? Tout simplement, et je pense que c'est un phénomène qu'on n'a pas assez étudié, que les loups étaient constamment sur les champs de bataille, qui suivaient les armées et l'Europe était constamment en guerre, qu'il se nourrissait des cadavres, et que donc il y a pu avoir une accoutumance à la chair humaine à un moment donné qui a pu permettre ou favoriser la reproduction de ces comportements de chasse sur des êtres vivants, et en l'occurrence sur, et ça on en a l'apparition en Bourgogne d'ailleurs depuis le XIe siècle, hein, avec des témoignages autour de l'an 1000 assez significatifs d'auteurs, de moines qui parlent déjà de ce phénomène. Donc c'est sans doute ce qui s'est passé dans l'Auxerrois, et toujours est-il qu'une trentaine d'enfants est passée de vie à trépas en quelques mois, donc c'est assez effrayant, avec une psychose énorme dans toute la région, des enfants qui n'osent plus sortir, qu'on n'ose plus envoyer, parce que les loups sont là. Alors c'est pas une bête, ce sont des loups anthropophages en réalité, et qui veillent et qui sont effectivement dangereux. Rarement, je le dis bien, quand vous ramenez ça à l'échelle des temps, c'est assez rare, mais quand ça frappe fort et ça frappe dur.
Il faut aussi dire qu'il n'y a pas que les loups qui peuvent dévorer les enfants. Une truie, vous parlez d'un procès de truie, il y a les animaux...
J'ai voulu aussi dire que le loup n'est pas le seul prédateur de l'enfant, et on a eu même effectivement au Moyen-Âge des procès d'animaux, des truies qui ont pu manger des enfants. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on pouvait juger, ça paraît aberrant aujourd'hui, mais juger des animaux, s'appuyer sur certains exemples bibliques pour le faire, on n'a jamais jugé le loup. Le loup est coupable par nature, c'est l'animal du diable, donc quand on le rencontre, on le tue. Il n'y a pas de procès du tout de loup, il faut le détruire. Ça, c'est ancré dans la mentalité depuis le Moyen-Âge.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits, une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit, un chien hurle. Regardez bien, Jean de l'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups, oh, oh, les loups étaient loin de Paris. En Croatie, en Germanie, les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire, les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue-leu-leu, dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, tu peux sourire, charmante Elvire, les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus, le soir, affronter la neige des boulevards. Alors, de loups sont entrés dans Paris. L'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Criveuil. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans loups sont entrés dans Paris, soit par ici, soit par Ivry. Sans loups sont entrés dans Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Sans loups sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire grâce à ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont envahi Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups ont envahi Paris,
éclatait de rire. Charmant Elvire, l'aile a t'envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cents, faire carrosse, liesse et bombance dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, les loups, oh, oh, les loups sont sortis de Paris, soit par ici, soit par ivré. Les loups sont sortis de Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, j'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, les loups, les loups, les loups, les loups.
Il nous a quittés en 2004 à l'âge de 82 ans. C'était Serge Reggiani qui interprétait « Les loups sont entrés dans Paris » en 1967 sur des paroles de Albert Vidali. D'après certaines sources, il semblerait que la chanson « Les loups sont entrés dans Paris » ait été écrite en référence à l'entrée de l'armée allemande dans Paris et à son occupation durant la Seconde Guerre mondiale. Retrouvons Gilles Platret, historien, spécialiste, entre autres, de l'histoire des loups en Bourgogne. Il est notre invité ce soir dans Wagon Livre. Détruire le loup. Alors, vous avez parlé des louvières tout à l'heure. Vous disiez qu'on pouvait tuer 700 loups par an en Bourgogne. Alors, il y a les battues. Alors, les battues, ça implique que toute la population est mobilisée. Et vous dites que ce n'est pas forcément le moyen de destruction du loup le plus efficace.
Alors, c'est un moyen efficace pour repousser le loup. Je donne des exemples dans l'étude assez amusants, et j'avoue que l'historien prend quand même beaucoup de plaisir quand il fait ses recherches. C'est très long de chercher sur le loup parce que les sources sont complètement disséminées. Hein. Il m'a fallu 5 années pour faire ce livre, et c'est, j'allais dire, le minimum, parce que c'est très très long. Mais parfois, on a des petits moments de bonheur. Lorsque vous voyez un préfet qui lance une battue au 19e siècle parce que les loups pullulent, il n'est pas très loin de la frontière d'avec son voisin. Et que 2 jours plus tard, le même voisin fait une contre-battue pour renvoyer les loups d'où ils viennent, vous vous rendez compte qu'en réalité, la battue, elle a surtout pour vertu de repousser le problème, à défaut de le régler. Parce que c'est pas la battue qui est le plus efficace, ça rassure la population, ça la contraint aussi. C'est une journée de travail qu'elle doit abandonner, parce que c'est obligatoire sous l'Ancien Régime. On ne peut pas se soustraire à la battue. Hein. Donc c'est un appoint indirect, là aussi. Pas toujours bien vécu, d'ailleurs. Surtout que c'est des battues qui vont s'étaler sur parfois 10, 20, 15, 30 kilomètres. C'est des battues très très larges. Bon, donc on repousse le loup. Mais à la vérité, c'est pas avec les battues qu'on est arrivé à éliminer les loups. L'amélioration technique du fusil au 19e siècle, les Bourguignons sont un peuple de chasseurs au 19e. Tout le monde a un fusil, a beaucoup contribué à ça. Et puis surtout, j'y insiste, parce qu'il y a les pièges, vous parliez des louvières, effectivement, les trous creusés.
Les louvières, on attire le loup avec une noix, voilà, une vache.
Voilà, exactement, voilà, c'est ça, tout un animal mort. Et puis, parfois aussi, les pièges qu'on rencontre parfois encore dans les vides-greniers ou les brocantes, c'est ces énormes griffes de fer qui se referment lorsque le loup pose sa patte au mauvais endroit, qui sont d'ailleurs, Dieu merci, interdit pour tout type de chasse, que c'est assez meurtrier, il faut bien le reconnaître. Mais surtout, ce qui va déterminer la disparition du loup, c'est le poison.
Oui.
C'est ce qu'on appelle la noix vomique, hein, qui est un alcaloïde très puissant, c'est de la strychnine, ni plus ni moins, qu'on va véritablement répandre dans la nature, la plupart du temps dans des bêtes mortes aussi, dans des charognes, près des points d'eau, pour être sûr que le loup ne loupe pas cette proie, et ça va vraiment contribuer à la disparition du loup. C'est le poison qui est venu au bout du loup, plus que la battue et toute autre méthode de chasse.
Donc je me permets de rappeler que, puisque vous l'avez écrit dans votre livre, bon, je rappelle le titre, hein, « Les loups dans l'histoire de Bourgogne », signé Gilles Platret, qui est ce soir avec nous dans Wagon Livre. Il y a eu des battues donc dans le Grand Auxerrois à cause de cette fameuse bête de l'Auxerrois. Et puis, vous l'avez dit précédemment dans l'entretien, mais je me permets de le rappeler, c'est que la dernière battue en Bourgogne a eu lieu en 1956. Comme vous dites, ça fait un peu plus de 50 ans.
Alors ça, c'est toujours très surprenant quand j'annonce ça, notamment dans mes conférences, que j'aime beaucoup rendre compte de mes recherches au grand public. Les gens sont surpris, et en réalité oui, c'est 2 générations, voilà, 1956, c'est hier. Donc c'est une histoire qui a commencé en Bourgogne il y a pratiquement 1 million d'années, avec ce premier loup qu'on a retrouvé dans le secteur de Cluny, qui est le plus ancien en tout cas aujourd'hui recensé, et qui s'est terminé en 1956. Et je crois que ça nous donne un peu le vertige. C'est-à-dire que pendant des centaines de milliers d'années, le loup a vécu avec l'homme et il a disparu. Alors, on voit bien aujourd'hui que son retour ne laisse personne indifférent. Je pense que la polémique qui naît souvent de la réapparition du loup sur un secteur, polémique d'ailleurs qui mérite d'être analysée, parce que même si aujourd'hui les loups sont moins nombreux que les chiens sauvages, ce qui n'était pas le cas auparavant, les loups étaient beaucoup plus nombreux avant, on sait très bien qu'ils peuvent aussi être facteurs de troubles sur les troupeaux, ça c'est incontestable, on a des vidéos, on le sait. Mais simplement, au-delà de cet aspect-là qui est déjà très tendu, je crois que si tout le monde est intéressé par ce phénomène-là, c'est tout simplement parce que on a tous en nous encore ce souvenir. Alors je ne vais pas faire de la psychogénéalogie, hein, comme certains font, mais je me dis que la transmission orale et l'habitude de vie à proximité de cet animal pendant des centaines de milliers d'années n'a pas pu nous laisser indifférents. En tout cas, personne ne l'est aujourd'hui quand on parle du retour du loup sur le territoire. Retour du loup aujourd'hui à partir de l'Italie sur une grande partie sud-est de la France, et puis sans doute retour du loup, un de ces jours. Mais
oui,
quand
parce que vous l'écrivez, c'est quasiment la dernière phrase de votre livre. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que le loup reviendra prochainement en Bourgogne. Et vous terminez en parlant de votre livre. Ce livre est donc en quelque sorte un inventaire avant réapparition.
Je le crois. Et j'ai d'ailleurs quelques témoignages alors qui n'ont pas été attestés parce qu'il nous faut évidemment des preuves tangibles, notamment des traces de loup pour identifier vraiment la présence de l'animal. Mais en tout cas, visuellement, on a déjà quelques témoignages bourguignons. Je pense notamment dans certaines forêts du secteur de Dijon où on aurait aperçu des animaux avec une silhouette proche de celle du loup. C'est pas complètement impossible. Ça veut pas dire que le loup s'est fixé. Mais ça veut dire que le loup est en train d'explorer de nouveaux espaces, si vous voulez. Et les explorant, il peut passer par la Bourgogne. Alors, trouvera-t-il en Bourgogne une zone ou des zones d'habitat favorables? J'ai tendance à penser que oui. Dans certaines forêts, dans certains massifs, on pense au Morvan spontanément, parce que c'est sans doute là où, effectivement, il a duré le plus longtemps. Peut-être dans d'autres massifs forestiers aussi importants, il y aura sans doute à un moment donné une recolonisation de l'espace par l'animal. Alors après, chacun se terminera. Le débat sera lancé. Moi, comme historien, je n'impose pas de vue. Je dis simplement qu'il est intéressant de voir ce qui s'est passé pour peut-être mieux comprendre le présent et augurer de l'avenir. Mais je pense, encore une fois, qu'on sera aujourd'hui où le loup est protégé. C'est une espèce protégée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas régulée, mais elle est protégée. Sa disparition, son extermination est interdite. Je pense que le débat se nourrira, je le crois incontestablement, de cette histoire fabuleuse qu'il a liée en Bourgogne à l'homme, tout simplement.
Le groupe pop norvégien A.A. interprétait Cry Wolf, c'était en 1986. Encore une histoire de loup, mais en anglais cette fois. Nous retrouvons notre invité ce soir devant les micros de Radion, Gilles Plattret, historien libéral, que nous accueillons pour son livre « Les loups dans l'histoire de Bourgogne ». Gilles Plattret, je ne peux pas vous libérer sans vous demander de glisser quelques mots sur le loup-garou. Parce que il y a des pages savoureuses sur la fin du livre, notamment dès qu'on rentre un peu dans les traditions populaires, le folklore bourguignon. Par exemple, c'est extraordinaire ce que vous nous révélez. Au XIXe siècle, certains curés de campagne se déguisaient en loup-garou pour faire peur, pour faire peur aux jeunes gens et notamment empêcher leurs jeunes ouailles de se rencontrer, de se retrouver la nuit. C'est formidable.
Alors, c'est vrai que la dernière partie du livre est consacrée à l'imaginaire du loup. Parce que si les deux parties sont des parties historiques, j'ai voulu aussi voir comment la tradition s'était nourrie de l'histoire pour proposer certaines figures. Vous vous rappelez évidemment la figure du loup-garou. Je dirais simplement qu'on a sur cette figure-là des histoires très anciennes qui remontent au Moyen-Âge. Au moment des guerres de religion, on a même condamné à mort certaines personnes en les ayant accusées de s'être transformées sous le pouvoir du démon en loup pour commettre des meurtres. C'est d'ailleurs intéressant psychologiquement de voir un peu le cheminement qui amène à cela. Mais en tout cas, donc, c'était une croyance forte. Et puis avec le temps, elle dégénère. On y croit de moins en moins. Et au fin 19e, vous citiez cet exemple, assez fabuleux aussi, de certains personnages qu'on appelle loup-garou dans certains secteurs, qu'on appelle galipote dans l'autre, qui le soir venu se mettent sur la tête sur le dos une peau de bête, peau d'ours, peau de loup, bien souvent, un drap parfois simplement, et qui vont courir la campagne pour effrayer les gens. Alors simplement gratuitement, ou dans le cas de ce prêtre que vous citiez, c'est en tout cas la justification qu'il a trouvée lorsqu'on l'a eu bastonné prestement pour lui faire terminer ses forfaits, qui a dit qu'il voulait absolument dissuader les jeunes gens de courir la nuit dehors dans des lieux de perdition et pour des jeux qu'on imagine volontiers interdits. Et donc il avait essayé de trouver ce remède de la peur pour y parvenir. Bon, il a fini couvert de bleu parce qu'on s'organisait, donc on n'y croyait déjà plus. Mais ça faisait toujours partie de l'imaginaire. Et je le dis parce que je l'analyse notamment sur certains cas. Dans certains secteurs, quand on fait vraiment de la micro-histoire dans des villages, les traditions de loup-garou naissent à partir du moment où on a des victimes de loups. C'est le cas, par exemple, dans le sud de Bourgogne, où on a une tradition d'un loup-garou qui est en fait un lynx. Et quand on regarde les registres paroissiaux, dans les années 1760, on a une attaque de lynx sur deux jeunes filles qui a amené à la mort de ces jeunes filles. Et un siècle plus tard, la légende du loup-garou n'est plus celle du loup, mais du lynx-garou, si vous voulez. Donc c'est là aussi une richesse extraordinaire qui montre bien que nos légendes, nos traditions autour du loup se sont enracinées dans une réalité historique.
Alors si vous souhaitez prolonger notre émission, tout savoir des traditions populaires autour du loup, des meneurs de loup et autres aspects fascinants, procurez-vous très rapidement le livre de notre invité Gilles Plattret, dont je rappelle le titre « Les loups dans l'histoire de Bourgogne », un remarquable ouvrage d'histoire régionale, érudit et richement illustré, plaisant et captivant. Et je ne serais pas complet si je ne remerciais pas Sylvie et Jean-Jacques Ricard de la librairie Plume et Images à Tonnerre qui nous ont accueillis dans leur librairie, qui devient, paraît-il, un studio annexe de Radion dans le Tonnerrois et qui nous a permis d'enregistrer l'entretien de ce soir. Merci Gilles Plattret.
Merci à vous.
Quelques manifestations et événements autour du livre dans les jours à venir dans Lyon et sa périphérie. Tout d'abord, vendredi 8 avril prochain à 18h30 à la bibliothèque municipale d'Appoigny, Barbara Moreau, qui était notre invitée la semaine dernière, présentera son spectacle « C'est moi Gadine », un spectacle d'une quarantaine de minutes. L'entrée est libre, c'est donc vendredi à 18h30 à la bibliothèque municipale d'Appoigny. Samedi 9 avril de 10h30 à midi, Bernadette Courtois est l'invitée de la librairie Voileau à Avallon pour dédicacer son dernier roman « La moisson des pierreux » paru aux éditions de l'Armançon. Dimanche prochain, 10 avril, de 10h à 18h, se tiendra le 14e Salon du Livre, organisé par l'association Pierre Larousse. C'est dans les salles polyvalentes de Toussy, où cette année, une large place est réservée à la littérature jeunesse, avec des ateliers d'écriture, de reliure, présence également d'illustrateurs, d'éditeurs et de libraires au rendez-vous pour le bonheur des petits et des grands. L'entrée est gratuite. Mercredi 13 avril à 10h30, l'heure du conte à la bibliothèque Jacques Lacarrière à Auxerre, une histoire contée pour les enfants à partir de 4 ans. Et puis je le signale dès à présent, puisqu'il y aura un partenariat Radion avec cette manifestation haute en couleurs, les 23 et 24 avril prochains, au 20e Vinet de Tonnerre, c'est-à-dire durant le week-end de Pâques. Sachez que la librairie Plumes et Images de Tonnerre accueillera sur son stand Philippe Bercovici, auteur de bande dessinée. Il est également le dessinateur des Femmes en Blanc. Et il sera présent sur le stand donc de la librairie Plumes et Images pour dédicacer son album Robert Parker, Les Sept Péchés Capiteux, aux éditions 12 bis. Ce sera à l'hôpital Marguerite de Bourgogne, à Tonnerre, les 23 et 24 avril prochains. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21h. Le comédien Jean-Pierre Mariel sera notre invité. Il évoquera son enfance dans l'Yonne, très précisément à Précilsec, à quelques kilomètres d'Avallon. Il reviendra aussi sur sa carrière au théâtre et au cinéma et nous ferons avec lui le tour de son ouvrage très largement autobiographique, Le Grand N'importe quoi, paru aux éditions Kalman-Lévy. C'est donc à ne pas manquer mercredi 13 avril à 21h sur Radion ou via internet sur le www.radion.fr. Bonne fin de soirée à l'écoute du programme musical de votre radio locale. Excellente nuit. Merci de votre attention. Au revoir.